Nous en parlions dans l'émission précédente, les glaces polaires fondent et ce n'est pas bon signe. En outre, la montée des océans et autres risques liés au bouleversement des courants marins, des scientifiques viennent de faire une découverte alarmante au sujet des effets du changement climatique sur les écosystèmes de l'Antarctique. Au pôle Nord, quand on pense fonte des glaces, on pense souvent à l'ours polaire. Mais dans l'Antarctique, eh bien au pôle Sud, pas d'ours polaire, mais il existe une espèce d'oiseau, pourtant emblématique et que l'on pensait jusqu'alors peu touchée par les activités humaines, une espèce que l'on nomme à tort pingouin, il s'agit du manchot empereur. Des milliers de bébés manchots auraient disparu, une découverte dramatique qui montre la brutalité des effets du changement climatique sur les écosystèmes et qui montre encore une fois que la situation est alarmante. L'une des scientifiques qui a fait cette découverte est aujourd'hui parmi nous, il s'agit de Aude Boutet, elle est auvergnate et a sillonné le globe pour étudier les effets du changement climatique. Elle a pu étudier et rentrer en contact avec cette espèce d'oiseau majestueux, le manchot empereur. Bienvenue dans un nouvel épisode dont n'est pas des Einstein, mais tout est relatif, générique.
On n'est pas des Einstein.
On n'est pas des Einstein.
Eh bien, bienvenue donc dans ce nouvel épisode, l'épisode 3 de la saison 2, déjà un peu plus d'un an maintenant qu'on a commencé ce podcast. Et aujourd'hui, eh bien dans le studio, il y a avec moi donc Didier Chavaroche.
Bonjour à tous.
Et nous accueillons donc aujourd'hui Aude Boutet, qui est l'une, je l'ai dit tout à l'heure, l'une des scientifiques qui a fait cette découverte en Antarctique. Donc, elle a sillonné le globe et en effet, elle a étudié donc pendant de nombreuses années l'effet du changement climatique. Et aujourd'hui, elle est venue pour nous parler de cette découverte qui peut sembler assez mystérieuse, entre guillemets, puisque des bébés manchots auraient disparu. Aujourd'hui, donc, Aude Boutet, est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Alors, on se tutoie, hein, parce qu'on se connaît depuis quand même déjà pas mal d'années. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a été découvert concrètement et comment vous l'avez réalisé, en fait?
Bonjour à tous. Je travaille depuis presque 10 ans sur les écosystèmes polaires et donc pas mal sur les manchots et l'effet des changements climatiques sur les écosystèmes. Donc l'étude là, en fait, on a étudié surtout les populations de manchots empereurs qui sont emblématiques de l'Antarctique, comme tu le disais avant, qu'on trouve seulement en Antarctique. Et ils sont tout autour de l'Antarctique. Il y a 62 colonies qu'on a découvertes. Et en fait, on suit ces populations, ces colonies, depuis des images satellites. Et en fait, on a des images satellites régulièrement au fur et à mesure de la saison. Et en fait, on peut surveiller les colonies sans avoir à intervenir depuis le ciel, quoi. Et en fait, les manchots empereurs, ils ont un cycle de développement particulier. Ils vont du coup nicher sur la glace. C'est la glace côtière. Donc pas n'importe quel type de glace. C'est la glace qui est rattachée au continent.
D'accord.
Et donc, ils vont dépendre de cette glace côtière qui est censée être stable entre mars et janvier.
D'accord. Donc, si je comprends bien, pour pouvoir visualiser ça de manière, parce que le continent Antarctique, il est immense, pour visualiser ça de manière concrète et étudier les populations donc de manchots empereurs, on a besoin d'images satellites, donc d'images qui permettent de voir quelque chose en globalité de très haut. Du coup, alors il me semble bien que c'était à partir d'images de la mission Copernicus, pour donner une petite précision, hein, Copernicus Sentinel 2.
C'est la Commission européenne qui nous les fournit.
Exactement.
C'est ça, Copernicus Sentinel 2.
Ouais. D'accord. Et donc ça permet d'avoir une vue plus globale, une vue précise aussi, j'imagine.
On arrive à compter les manchots depuis les satellites, en fait.
C'est ça. En fait, pour être plus précis, il y a un suivi satellitaire de l'Antarctique depuis 45 ans, donc à peu près depuis les années 80.
Ah oui.
Il y a un suivi régulier par les satellites. Et il y a de plus en plus de satellites ou des définitions d'images qui sont meilleures depuis récemment. Et en fait, la mission satellitaire Copernicus Sentinel 2, c'est eux qui nous fournissent les images dans certains coins de l'Antarctique depuis 2018.
D'accord. Et donc, alors, ces glaces-là, c'est des glaces qui sont situées aux abords du continent, qui sont des glaces très particulières. Alors, pourquoi ces glaces, précisément ? Est-ce qu'on a une idée de pourquoi ils vont ici et...
Je vais vous expliquer un peu le contexte. Bon, déjà, pour en revenir, pour finir le sujet des comptages par satellite, et les manchots empereurs, les colonies, soit on peut y accéder, il y a certaines colonies où on peut y accéder parce qu'elles sont proches des stations scientifiques, par exemple à Dumont-d'Urville, il y en a une qu'on peut accéder à pied. Ouais. Il y en a d'autres qu'on peut trouver par survol aérien, de drones ou d'hélicoptères. Et enfin, les dernières qu'on a découvertes, c'est grâce aux satellites. Je développerai plus tard exactement comment, mais ça veut dire que là, les 14 dernières années, on a découvert encore beaucoup de colonies, et ouais. Là, ça fait que 2 ans qu'on en a découvert encore 6, et maintenant, on en a 62, alors qu'il y a quelques années, on n'en était qu'à 40 et quelques. Donc, on continue à découvrir, parce que l'Antarctique, c'est pas facile à étudier. Voilà, la parenthèse est close. Ensuite, les manchots empereurs, il faut savoir que c'est l'espèce de manchot la plus grande au monde. Il y a 18 espèces de manchots dans le monde et les manchots empereurs sont les plus grands. Ils font entre 1 mètre à 1 mètre 30 de haut, entre 20 jusqu'à 41 kilos pour les mâles au début de la période de reproduction. Donc c'est vraiment des gros oiseaux. Et ce qui fait qu'ils vont avoir un cycle de développement très particulier parce que pour élever un jeune, c'est un jeune de grande taille, donc il va leur falloir beaucoup de temps. Et en fait, ils ont une stratégie de reproduction complètement inverse à toutes les espèces de manchots qui se reproduisent vers l'Antarctique. Les autres manchots sont assez petits et ils se reproduisent pendant l'été austral. Donc ils ont une reproduction accélérée et en 3 mois, ils sont capables de s'accoupler, pondre, élever le jeune et le mener à l'envol. Pour les manchots empereurs, c'est impossible parce que le jeune, à l'envol, il va faire entre 9 à 14 kilos et il va leur falloir 8 mois pour mener à bien le cycle de reproduction. Donc, ils vont se reproduire pendant l'hiver antarctique.
D'accord. Donc
au moment où il y a le plus de glace.
D'accord, donc c'est complètement l'inverse. Ils ont besoin de cette glace, donc, entre guillemets. D'accord. Et c'est beaucoup plus long, j'imagine que...
Enfin, c'est ça. C'est complètement... c'est un cycle très très particulier, donc il y a eu une évolution et une adaptation, ça leur a pris des milliers d'années pour s'adapter et réussir à valider cette stratégie-là. Il fonctionnait jusqu'à maintenant, mais on va voir que ça commence à être compliqué. Donc en fait, ils arrivent fin mars sur les colonies au moment où la banquise côtière, la glace reliée à la côte se forme. On appelle ça l'embâcle. Et en fait, ils vont se reproduire sur la glace. C'est les seuls manchots à se reproduire sur la glace. Les autres manchots, les manchots adélie, les manchots papou qui sont en Antarctique, ils vont former des petits nids avec des cailloux sur le sol.
D'accord.
Les manchots sont les seuls à être sur la glace.
Ah oui, c'est le nid est fait de glace, en fait.
Et ben, il n'y a pas de nid, en fait. Chez les manchots empereurs, c'est les seuls oiseaux, les seuls... manchots et même oiseaux, quasiment, oui, qui n'ont pas de nid à proprement parler, parce qu'ils vont incuber sur leurs pattes et ils vont se déplacer. Donc, la colonie va être un endroit défini sur une zone de glace stable, mais ils ne vont pas avoir de nid à proprement parler.
Donc, ils vont se balader avec l'œuf, entre guillemets, ils vont garder l'œuf et le garder, quoi, au chaud, entre guillemets, entre leurs pattes et se déplacer avec, éventuellement.
Sur leurs pattes, en fait, ils vont incuber sur leurs talons pour avoir le moins de contact avec la glace pour les déperdre de chaleur. Voilà, ils vont poser l'œuf sur le dessus de leurs pattes et le recouvrir avec leur bourrelet de gras, quoi.
D'accord.
C'est vraiment particulier, quoi.
Donc ouais, c'est un oiseau qui a besoin de gras, du coup, j'imagine aussi, avec un système de plumage qui permet de maintenir l'œuf au chaud et d'éviter aussi que l'œuf ne touche la glace pour éviter de perdre la déperdition de chaleur.
Exactement.
C'est impressionnant. Enfin, moi, je savais pas du tout. Je pensais qu'ils avaient leur petit nid dans un coin de d'accord.
Moi aussi.
C'est pour ça que la glace est très importante parce que déjà. Donc, ils arrivent fin mars vers la colonie, donc quand il y a l'embâcle.
Ouais.
Et ils vont commencer des parades, l'accouplement. Et en fait, la femelle va pondre un œuf en mai. Le pic d'occurrence, il est en mai, mais ça peut durer jusqu'à juin. Et ensuite, une fois que l'œuf est pondu, la femelle va le transmettre au mâle. Et ça, c'est la première phase qui est délicate. Il faut que ça se passe sans encombre. Il ne faut pas que l'œuf tombe sur la glace. Parce qu'il s'y reste une minute en contact avec la glace, il est mort, quoi. Et parce que c'est au mois de mai et c'est, ça commence à être vraiment le cœur de ça, ça commence à être le début de l'hiver. Non, et donc, une fois qu'elles l'ont transmis au mâle, les femelles, elles vont partir.
Et faut pas oublier
elles vont partir
que...
en mer. Mmh. Voilà, c'est ça.
Faut pas oublier qu'on est dans l'hémisphère sud et que du coup de mai jusqu'à novembre.
Et oui, c'est l'hiver là-bas.
Voilà, c'est non, oui, c'est ça, ça pardon, c'est l'hiver, ouais, juillet-août, c'est inversé. Et donc ils doivent se passer l'œuf de c'est la femelle qui passe l'œuf au mâle. Ils doivent se passer l'œuf et
au
moment
il va incuber tout seul. Ouais. L'œuf pendant 62 à 67 jours, donc
ah, d'accord.
Plus de 2 mois.
Ah, c'est l'œuf au foyer alors.
C'est ça, c'est
oui.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre parler du fait que il paraît que les manchots empereurs peuvent être homosexuels aussi. C'est une espèce qui peut être homosexuelle et que les mâles, dans ces cas-là, vont incuber des cailloux. J'ai lu ça dans une étude.
Ça, c'est les manchots à Delhi, ça.
C'est les manchots à Delhi, d'accord. Donc, c'est pas les manchots empereurs.
Non, mais ils peuvent le faire. Il y a pas mal de manchots qui peuvent faire des... En fait, il y a souvent des rapports sexuels entre plusieurs mâles et souvent sur les jeunes aussi, les immatures ou les poussins, les manchots
adélis.
Ah, ouais, en fait, il y a des adultes non reproducteurs qui vont en fait stimuler la phase de reproduction, qui vont s'entraîner en gros pour quand ils seront matures sexuellement, et donc ils vont s'entraîner sur des poussins ou certains adultes reproducteurs qui ont été en échec, soit parce que leur œuf a été volé, cassé ou peu importe.
Ouais.
Et ils vont aussi faire ça.
D'accord, ok. C'est
pas... Il y a certains oiseaux où les manchots papous peuvent le faire aussi. Donc eux, ils ont des nids en galets pour éviter que ce soit en contact quand la neige fond et que c'est plein de boue. C'est un peu surélevé comme ça. Et ben oui, ils peuvent. Si jamais ils ont 2 œufs souvent, si jamais il y en a un des deux qui est volé ou si les 2 sont volés, comme ils ont l'instinct de reproduction, même si pour eux la saison elle est gâchée, ben ils vont pas partir tout de suite en mer. Ils vont rester parfois jusqu'à la fin de la saison de reproduction et ils vont soit couver un œuf qui est vide, soit des fois des
cailloux, des
cailloux,
pierres.
Ça arrive, ouais.
D'accord, c'est assez rigolo entre guillemets. Alors, pour revenir un petit peu au sujet de l'étude, donc les bébés doivent, enfin surtout les manchots, pas les bébés, les adultes, pardon, doivent pondre sur cette fameuse glace qui est en bordure de l'Antarctique, du continent. Et donc, j'imagine que si elles font cette glace, eh bien, ça perturbe la reproduction. Et donc, c'est là où on en vient à votre découverte, votre étude.
Comme je vous ai dit, ils arrivent en mars, et donc le moment de la ponte, ça va être en mai. Donc, il faut que pour que les parades et les accouplements se passent bien, il faut déjà que la glace soit bien installée. Et le premier problème qu'on va avoir depuis 2016, c'est que l'embâcle a lieu de plus en plus tard. Donc, le moment où la banquise côtière se forme est un peu tardif. Donc, ça, c'est un premier souci.
Ouais.
Et ensuite, je vous disais qu'ils incubaient pendant 2 mois les mâles. Après, les femelles reviennent, ils s'échangent le poussin. Et après, ils vont chacun alterner des allers-retours pour nourrir le poussin entre 6 à 8 fois.
D'accord,
et donc, le jeune va avoir besoin de 3 à 4 mois pour grandir. Et il pourra s'envoler normalement au mois de décembre à janvier, au moment où il y a la débâcle. Donc, c'est le moment où la banquise côtière se fragmente. C'est le moment qui coïncide avec le moment où les jeunes poussins ont mué et ont leur nouveau plumage imperméable et peuvent partir à l'eau.
D'accord, ils sont capables d'aller.
Le problème qu'on a eu, pardon.
Donc, ils sont capables d'aller dans l'eau puisque leur plumage est imperméable alors qu'ils ne l'étaient pas avant, si j'ai bien tout suivi.
C'est ça.
D'accord.
En fait, tous les poussins, quand ils naissent, ils sont en duvet. Parce que pendant l'élevage, en fait, ils sont pas au niveau de l'eau, donc ils sont sur la glace ou sur terre selon les espèces. Et donc, pour résister au froid de l'Antarctique, ils ont un duvet qui leur permet de rester au chaud.
Ouais.
Et au moment où ils vont aller, et sauf que c'est pas imperméable. Et au moment où ils atteignent, ils peuvent être partir à l'envol. D'abord, avant de partir à l'envol et d'aller dans l'eau, il faut qu'ils changent de plumage. Donc, ils vont perdre leur duvet. Ils vont avoir leur première plume de juvénile qui est imperméable. Et donc ça, en général, ça leur prend à peu près 3 semaines avant d'avoir leur plumage définitif et de pouvoir aller à l'eau en toute sécurité.
D'accord. Alors, je vous donne une précision. Dans l'étude, tout à l'heure, tu parlais d'aller à l'envol. Attention, les manchots donc, ne volent pas. C'est un terme qui, en anglais aussi, on peut utiliser ce terme-là. Et la traduction littérale, c'est justement qu'ils puissent s'envoler. en fait. Mais c'est juste un terme pour dire qu'ils peuvent partir, entre guillemets, du nid familial, entre guillemets, c'est-à-dire partir de leurs propres moyens, être autonomes et partir à l'eau, en fait. C'est une prise. Voilà.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Prendre son envol, c'est quitter le nid, quoi.
Quitter le nid, voilà.
C'est un terme qu'on utilise, en biologie. Mm. En fait, il y a plusieurs stades. Il y a le stade de l'émancipation ou thermique, parce qu'au début, les poussins, ils ne seront pas indépendants thermiquement, donc il va falloir qu'il y ait un adulte qui le couve pendant les trois premières semaines, voire un peu plus. Ensuite, il pourra réguler lui-même sa température, donc il pourra être laissé seul, et les parents viendront le nourrir, mais il aura plus besoin d'être couvé. Donc ça, c'est l'émancipation thermique. Et après, pour tous les oiseaux en général, on parle d'envol au moment où, les jeunes partent en mer pour la première fois ou partent dans les airs pour la première fois, même pour les manchots, on utilise aussi le terme d'envol, même si les manchots ne volent pas.
Et oui, merci pour la petite question.
Du coup, ils se nourrissent uniquement de poissons, en fait. Ils chassent des poissons, en mer.
Oui. Donc, ils mangent des larves de squid, c'est calamar. Des poissons, des larves de poissons. Il y a certains manchots qui se nourrissent exclusivement de zooplancton, donc des micro-crustacés comme le krill. Ils passent leur vie en mer, c'est des oiseaux marins. Tous les manchots et tous les oiseaux marins, ils viendront à terre ou sur glace que pour se reproduire un court moment dans l'année. Bon, les manchots empereurs, c'est une exception. Et en fait, nous, on les voit là, on a l'impression qu'ils sont toujours proches des côtes ou tout ça. Dès qu'on les voit en pleine mer, au milieu de rien, on se dit, mais pourquoi ils sont là, ils sont perdus? Mais non, en fait, c'est vraiment leur habitat naturel.
Et oui, ils s'alimentent que dans l'eau, ils se reproduisent que sur un sol ou de la glace ou de la
c'est
terre
ça.
Ferme. Quoi.
Il faut qu'il y ait. Exactement.
Et donc, ces petits bébés manchots, s'ils n'ont pas le plumage suffisant, c'est-à-dire les plumes imperméables, s'ils ne les ont pas et qu'ils vont à l'eau, je suppose que très certainement ça a pu occasionner leur perte.
Oui, le souci qu'il y a eu, comme je vous ai dit, il leur faut 3 semaines pour muer et passer de leur duvet à leur plumage imperméable de juvénile. Et en général, donc les manchots empereurs, ils partent à l'eau. Donc leur premier plongeon, ça va avoir lieu en décembre, souvent selon les colonies, fin décembre ou début janvier, au moment où la glace se fragmente. Et là, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a observé des grosses anomalies au nord-ouest de l'Antarctique, donc dans la mer de Bellingshausen, où là, on a perdu la glace côtière complètement en novembre, alors qu'en novembre, ils ont même pas commencé leur mue.
D'accord, donc il y a eu complètement toute la glace qui a disparu, c'est ça?
Ouais, donc elle s'est complètement détachée de la côte, en tout cas.
D'accord, donc les petits qui étaient là à ce moment-là ont très certainement n'ont pas pu survivre, alors du coup, puisque cette glace, si elle a disparu et qu'ils n'avaient pas le plumage suffisant.
On pense qu'il y a eu 100% d'échecs sur ces 5 colonies-là.
5 colonies
Sur 4 des colonies. Non, pardon, on a étudié 5 colonies, mais il y en a 4.
4, d'accord. Qui étaient à cet endroit-là. D'accord.
Oui. Il y en a une, en fait, du fait de sa position et qu'elle est dans un endroit protégé là, et qu'il n'y a pas beaucoup de fond avec beaucoup d'icebergs. La glace, elle a réussi à se maintenir et elle a été fragmentée que le jour de l'an. Donc là, les manchots ont sûrement survécu. Mais sur les 4 autres colonies, donc celle-là, c'est la particularité géographique du site qui a fait que ça a fonctionné. Et sur les 4 autres, en fait, entre fin octobre et mi-novembre, toute la glace s'est fragmentée, il n'y avait plus de banquise côtière. Et donc, ce qu'on pense, c'est que comme ils ont besoin de la banquise côtière et d'un endroit stable, la colonie, elle est quand même un endroit défini. Et même si ça bouge de plusieurs centaines de mètres pendant la période de reproduction, si la glace, elle se fragmente, en fait, elle va se fragmenter en beaucoup, beaucoup de morceaux. Et donc, les poussins, ils sont pas partis à l'eau ou ils ont pas disparu d'un coup. Ils ont pu rester sur des morceaux de glace dérivantes. Il y a beaucoup de courant et le problème c'est qu'ensuite les parents sur des petits morceaux de glace fragmentés qui dérivent, ils peuvent pas retrouver leur poussin quoi, c'est plus à l'endroit exact. Donc c'est là qu'on pense que les adultes ils ont abandonné le process de voilà, c'est ça.
Ouais.
Alors, donc soit ils sont morts de faim tout seuls sur des bouts de glace, soit ils ont voulu partir à l'eau mais donc ils avaient ils sont morts de froid dans l'eau parce qu'ils étaient pas imperméables, c'est sûrement ce qui a dû se produire.
D'accord.
Et t'as bien précisé que 100% de perte, quoi. Il n'y en a pas un qui a survécu, quoi.
Sur ces 4 colonies-là, on ne peut pas savoir exactement. Ce qu'on constate, nous, les faits exacts qu'on a, c'est qu'on a des images satellites ou jusqu'à début, selon les colonies, soit fin octobre, début novembre, on voit les colonies. En fait, comment on les voit? On les voit grâce au guano, parce que les manchots, quand ils défèquent sur la glace, ça fait des petites taches beiges qu'on arrive à détecter depuis les satellites.
Depuis
c'est comme
satellites,
ça qu'on les repère, les colonies, en fait.
D'accord.
C'est comme ça qu'on les découvre. Et donc, on a des images très régulières, et donc tous les jours, on voyait, selon la fréquence à laquelle on reçoit les images, on voyait la présence de cette colonie. Et après, on voit que la glace, elle est complètement détachée de la côte. Il n'y en a plus, et on ne voit plus de traces de la colonie, en fait. Voilà.
D'accord, donc c'est une observation indirecte, en fait, on observe indirectement les populations, les groupes de manchots, par l'intermédiaire des traces qu'ils font sur la glace, et pas forcément directement la population en direct à certains endroits.
Et bien ça peut se faire par exemple sur une des colonies, donc la colonie de Rothschild, celle qui a été en succès, la seule qui a... Et ben celle-là, je l'ai survolée en hélicoptère et j'ai pris directement des photos.
Des photos,
Je les ai vues, moi, depuis l'hélicoptère. Donc, j'ai pu les compter depuis des photos prises
en hélico.
Et les autres, c'est depuis des photos satellites qu'on a fait.
Excellent. C'était ma question, justement. Est-ce que dans les moyens qu'il y a pour les comptages, etc., j'imagine que... donc, il y a l'hélicoptère pour parcourir des grandes distances. Mais à pied, ça se fait aussi, ou c'est des distances ou des espaces qui sont beaucoup trop grands?
Non, en fait, ça dépend des endroits en Antarctique. Comme je te disais, il y a certaines très peu de colonies qui sont accessibles à pied.
Ouais.
Une des seules, ça va être celle qui est à Dumont-d'Urville, qui est en Terre Adélie, vers la base française.
Ouais.
Celle-là est très étudiée, où on peut y accéder à pied. Mais les autres, elles sont inatteignables par les glaces. Donc parfois, on peut y aller avec certains bateaux. Donc moi, j'étais sur un brise-glace et on a pu se rapprocher de la colonie. Et après, depuis le bateau jusqu'à la colonie, on a volé en hélicoptère. Mais sinon, le reste, c'est impossible, quoi.
Et
elles sont pas accessibles autrement. Et voilà, les seuls moyens qu'on peut les observer
directement.
Oui.
Alors, si je reprends les termes un petit peu de ce qui a été dit, notamment par les commentaires faits par certains physiciens dans l'étude et dans ce qu'on a pu lire dans la presse, notamment, dans le dossier presse. Alors, cet article donc révèle de manière dramatique le lien entre la perte de glace de mer et l'anéantissement des écosystèmes. Donc le changement climatique fait fondre la glace de mer à un rythme alarmant et il est probable qu'elle disparaisse de l'Arctique dans les années 2030. C'est assez alarmant quand même. Donc cette étude-là qu'on vient d'entendre montre les effets donc du réchauffement climatique, du changement climatique, non seulement sur la fonte des glaces, la montée des océans, comme on le disait dans l'introduction, et tout autre effet, mais là, cette fois-ci, c'est sur des écosystèmes, sur des populations entières. Alors, on pensait que le manchot empereur était une espèce qui était peu touchée par les activités humaines, et pourtant, là, l'un des seuls facteurs majeurs qui influence leur évolution démographique, et bien ici, c'est le changement climatique. Donc, c'est à nouveau une alarme qu'on est en train de sonner, en fait.
Ouais,
là,
c'est quand même radical comme changement, quoi. Des populations entières qui disparaissent.
Des succès reproducteurs de reproduction.
Ouais, toute la portée,
qui sont flingués, quoi. Ouais.
Flingués, quoi.
Je vais rebondir sur plusieurs choses que t'as dit avant que j'oublie. Donc, pour parler du pôle nord, de l'hémisphère nord et de la banquise, de la glace qui est au pôle nord. Donc, au pôle nord, il n'y a pas de continent, c'est vraiment juste de la glace de mer.
Ouais.
Et donc, j'ai pu le constater aussi parce que je travaille dans, j'étudie les, en fait, moi, j'étudie, les changements climatiques au niveau polaire, parce que c'est là où c'est le plus impacté. Il y a vraiment des effets très notables. Et donc, c'est intéressant pour nous de voir ce qui se passe. Et j'ai été au pôle Nord en août, au 90-00. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, la glace, c'était de la glace vieille et épaisse.
Ouais.
Qui avait au moins 4 ans d'ancienneté, et en fait elle s'amenuise, donc on perd la banquise en surface sur les côtés, mais aussi en épaisseur.
En épaisseur.
Ce qui se passe, c'est de la glace qui est de plus en plus jeune, et là ce qu'on a pu voir cette année, c'était surtout de la glace annuelle. Donc c'est la glace qui est pas très épaisse, et voilà. Donc
ça,
c'est un peu dramatique.
Des indices qui sont de plus en plus présents sur la fonte et les effets.
Oui,
donc,
et, puis,
du changement.
Et on l'a vu, parce qu'il y a des personnes qui naviguent depuis 15-20 ans dans les mêmes zones. Et là, on a fait le passage du Nord-Ouest, où on part du Groenland, et on traverse au niveau du Nunavut, des territoires du Nord-Ouest, le Yukon, et on finit en Alaska. Et là, on a fait le passage du Nord-Ouest le plus au nord qui ait jamais été fait.
D'accord.
Et on était dans de l'eau libre. Il y a les commandants qui ont l'habitude de naviguer là-bas, qui ont dit que c'est la première fois qu'ils voient ça depuis 5 ans.
Ah ouais, carrément.
Et ils le voient clairement.
On pourra voyager du Groenland vers l'Alaska, en bateau, quoi.
Bah là, ce qui se passe, c'est que même pour au niveau du pôle Nord, on pourra faire la Transarctique à la voile.
En passant par le Nord,
30,
quoi.
Sans doute. Hein.
C'est fou. Alors pour
en revenir au manchot encore, en fait, c'est le problème, c'est pas que la fonte des glaces. Donc ça, c'est plutôt le cas au Nord, mais il n'y a pas que ça, en fait. On peut pas synthétiser en disant ça. En fait, les gros soucis, c'est souvent lié à des effets physiques aussi, au niveau des courants marins et des courants aériens.
Ouais.
Et il y a des phénomènes, comme on appelle ça l'oscillation australe, ou si vous avez déjà entendu parler de El Niño.
El Niño, oui.
La Niña aussi, El Niño, La Niña. Et en fait, c'est des oscillations australes qui sont plus ou moins intenses. Et en fait, c'est ce qui va impacter la force des courants, la force des vents, parce que ça va jouer sur la température des eaux, et donc sur les courants marins, forcément.
Et on en parlait dans l'émission précédente.
Sur la nourriture aussi, non?
Oui, et bien El Niño, ce qui va poser problème, c'est qu'il va aussi y avoir récemment, là, il va y avoir des grosses dépressions qui sont présentes proches de l'Antarctique. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi des grosses tempêtes avec beaucoup plus de vent d'ouest qu'avant. Et c'est ça qui va empêcher la glace de se former tôt. Donc elle va se former plus tard. Et certaines grosses tempêtes qui vont aussi faire en sorte qu'elle se fragmente. Donc il y a plusieurs choses. On parle de réchauffement, mais c'est vraiment un changement climatique avec des perturbations ou des anomalies. Donc
il ne faut pas imaginer juste de la chaleur qui augmente et de la glace qui fond toute seule. C'est tout un tas de procédés.
En fait, il y a des anomalies positives, mais il y a aussi des anomalies négatives en Antarctique. Donc il y a certains endroits de l'Antarctique, vers la mer de Ross ou plus au sud-est.
Il fait trop froid.
C'est plus froid qu'avant. Et il y a d'autres endroits comme au nord-ouest, où il y a des anomalies positives, où il fait plus chaud, mais il y a aussi plus de tempêtes, c'est pas simple.
D'accord, très bien.
Généralement, quand les écarts augmentent, il y a plus de, ça bouge plus, quoi.
C'est des extrêmes, d'un extrême. Alors, on va devoir bientôt clore cette émission. Malheureusement, on aurait pu encore en parler pendant des heures. C'était fort intéressant, merci beaucoup, Aude Boutet. Tu es venu donc là, dans cette émission, pour tirer la sonnette d'alarme, entre guillemets. Tu fais partie de ces scientifiques dont on a vraiment besoin à l'heure actuelle, hein, puisqu'il faut des scientifiques sur le changement climatique pour nous aider à comprendre et surtout nous aider aussi à développer, pourquoi pas, des outils futurs qui permettront de lutter contre ce changement climatique. On en a besoin, donc merci beaucoup à toi. Merci à Didier aussi d'être présent ici dans le studio.
C'était intéressant. Et on voit que le changement climatique, en fait, ça pardonne pas, quoi.
C'est brutal, en fait.
C'est brutal et ça pardonne pas, parce que ces pauvres pingouins, ils disparaissent.
Alors, c'est pas des pingouins, c'est des manchots. Mais t'es quant à l'eau, donc c'est pas grave.
Il y a pas ça dans le Barça, hein. Il y a pas ça dans la Sumine.
Non, dans la Sumine, il y a pas. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt.
Bah, merci de m'avoir invité à faire cette émission, parce que c'est vrai que pour nous, les scientifiques, c'est le seul levier qu'on a, c'est d'essayer d'en faire parler pour réussir à faire bouger les choses. Donc, merci à vous, c'était bien sympa. Salut.
Allez, salut. Salut. Ciao, ciao, bisous.
Ciao.
Bonne journée.
Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Ah ouais, tout est relatif.